Le message que je vous propose aujourd'hui est en fait très largement inspiré par un article de Christophe Payat. Plus d'entre vous le connaissent ou le connaissent de nom au moins, professeur de théologie pratique à la faculté de Vaux-sur-Seine. Un article paru le 7 mars dernier sur le blog .théo. Et cet article, dont le titre est « Foi trop faible ou foi déplacée ?» point d'interrogation, part d'un texte que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, et donc que je vous invite à lire au chapitre 17 à partir du verset 14. Ce texte fait suite à la transfiguration où quelques disciples ont eu le privilège de voir Jésus dans sa gloire. Verset 14, « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à Jésus, à genoux devant Jésus, et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est épileptique et souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. » « Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?»« C'est parce que vous manquez de foi, dit Jésus. Je vous le dis en vérité. » Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici, jusque-là. » Elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Dans ce commentaire, Christophe Payat reconnaît deux interprétations possibles à ce texte. Je cite, soit la parole de Dieu veut dire « Si vous aviez un tout petit peu plus de foi, vous pourriez déplacer des montagnes. » En quelque sorte, là, il fallait ça et vous avez eu ça. Il manquait un tout petit peu. Soit la petite foi est un rapport à Jésus mal positionné. Si vous saisissiez ce qu'est un disciple dans son rapport à son maître, vous verriez de grandes choses. Voilà les deux interprétations que Christophe Payat reconnaît dans ce texte. Et en faveur de la première interprétation, il le dit lui-même, et qui est aussi la lecture qu'on en fait habituellement, l'étude de ce texte lui-même, non seulement ici, mais aussi dans les textes parallèles de Marc et de Luc. Et en faveur de la deuxième interprétation, une prise en compte plus globale de tout l'évangile de Matthieu, en particulier quatre autres épisodes qui précèdent celui-ci. Et en fait, quatre fois déjà, avant ce moment-là, dans l'évangile de Matthieu, Jésus a reproché à ses disciples leur manque de foi. Je les cite en Matthieu 6, 30. « Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ?» Le manque de confiance en Dieu, en la providence divine. Chapitre 8, verset 26, dans la barque face à la tempête, il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et du lac, et il y eut un grand calme. Là, manque de confiance en la présence de Jésus. Chapitre 14, Pierre, lorsqu'il s'enfonce après avoir marché sur l'eau, aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna, et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et enfin, au chapitre 16, verset 8, quand les disciples ne comprennent pas les paroles sur le levain, et ils se disent, il nous fait une réflexion parce que sur le fait que nous avons oublié en partant de prendre du pain. Jésus, le sachant, leur dit, « Homme de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain ?» Et donc le problème de la petite foi, du peu de foi, n'est pas un sujet qui est étranger aux disciples. Ils y ont déjà été confrontés. Et même l'image de la graine de moutarde a déjà été évoquée au chapitre 13 dans une parabole qui la compare au royaume des cieux et évoque la démesure qu'il y a entre cette graine et la plante qu'elle est appelée à devenir une fois mise en terre. Et vraiment sur ce sujet, ils vivent un véritable paradoxe parce que à la fois Jésus leur reproche leur peu de foi et dans le même temps, il affirme qu'une quantité infinitésimale de cette foi leur suffirait pour accomplir des prodiges. Alors, je ne suis pas théologien et je ne vais pas trancher moi-même entre les deux interprétations à laquelle nous confronte Christophe Payat, mais quand même je trouve intéressant de nous confronter à une réflexion sur le positionnement de notre foi. Une foi trop faible ou une foi déplacée? Notre foi est-elle bien placée? Et à l'opposé, que serait une foi mal placée? En reprenant notre texte du début, vous l'avez constaté, dans ma traduction, on parle d'un épileptique, ce qui n'est pas le cas de toutes les traductions, ce qui n'est pas le cas du texte original. On constate que le diagnostic qui est fait, qui est porté sur cet enfant, est faux, puisque, en fin de compte, c'est bien une délivrance que cet enfant a besoin. Il a été délivré d'un démon, le texte le dit lui-même. Il n'est pas du tout le cas d'un contexte épileptique. Mais nous constatons que le père a amené premièrement l'enfant aux disciples et non à Jésus lui-même. Et ça, c'est un fait vraiment sans précédent. Jusqu'ici, tous voulaient s'approcher de Jésus, toucher Jésus, parler à Jésus. Mais Christophe Payat fait aussi remarquer que les disciples eux-mêmes n'ont pas eu la présence d'esprit d'amener cet enfant à Jésus quand ils se sont trouvés dépassés par la situation. Et finalement, c'est le père qui, le premier, va avoir ce réflexe de présenter son fils à Jésus. Et c'est entre ce père et Jésus que va se jouer la suite des choses avec cette interpellation sur la puissance de Dieu qu'on trouve dans le texte parallèle de Marc. Tout est possible à celui qui croit. Et c'est à partir de cet instant qu'un dialogue va s'instaurer entre ce Père et Jésus qui va conduire à cet appel au secours. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Les disciples se trouvent défaits. Défaits de n'avoir rien pu ou su faire. Défaits par leur échec. Était-il censé remplacer Jésus à son absence? Et si la critique de Jésus nous oblige à reconnaître qu'ils n'ont pas été à la hauteur, il n'est pour autant pas si simple de dire ce qu'ils auraient dû faire. Et Christophe Payat formule ici une hypothèse, je cite. C'est l'environnement humain de l'enfant qui se voit reprocher son absence de foi. Jésus se trouve face à une génération qui ne répond pas à la détresse de l'enfant par la confiance en la bonté de Dieu, et qui ne le reconnaît pas, lui, Jésus, comme le porteur du salut de Dieu pour les perdus. Les disciples, dans ce contexte, n'ont pas été capables de réorienter la demande du Père vers Jésus, qui seul est capable de guérir. Ils n'ont donc pas été ses témoins, porteurs de sa parole de guérison. Et de conclure, en comparant les deux interprétations, la foi des disciples est-elle ici trop petite? Avec la conclusion que si elle avait été plus grande, ils auraient pu guérir l'enfant? Ou bien est-elle mal orientée? Ils ne pouvaient rien faire sans Jésus, mais ils ont cru pouvoir se passer de lui. Et ceci nous ramène à la parole que Jésus prononce dans la parabole du cep et des sarments. En moi, vous ne pouvez rien faire. Si on se rapproche aussi de ce qu'il dit aux disciples au moment de les envoyer en mission à la fin de son ministère terrestre, il dit « Je suis avec vous tous les jours » et sous-entendu dans l'accomplissement de cette mission à laquelle je vous envoie jusqu'à la fin du monde. Et donc, si Jésus en a terminé avec son ministère terrestre, son ministère d'accompagnement n'est pas terminé à nos côtés et n'en continue pas moins jusqu'à son retour. Alors, bien évidemment, ce n'est pas du tout, quand on se quitte pour longtemps ou parfois définitivement, je penserai bien à vous, je prierai pour vous, et ça, c'est sincère, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire et on va être fidèle là-dedans, mais enfin, la présence de Jésus est quand même quelque chose de plus authentique, une présence permanente, agissante à nos côtés, dans tout ce que nous entreprenons en son nom. Et notez qu'il ne dit pas « Maintenant, votre foi est assez forte, continuez le travail sans moi jusqu'à ce que je revienne. » Ce n'est pas ça. C'est une présence promise à nos côtés tout au long de l'accomplissement de notre mission jusqu'à son retour. Nous ne sommes pas les successeurs de Jésus. Nous ne reprenons pas à notre compte les suites d'une entreprise mise sur pied par un fondateur. Nous sommes des disciples. Et comme disciples, notre rôle est d'orienter les personnes vers Jésus et non vers la foi. Si c'est la foi ou la mesure de foi que nous mettons au centre de nos préoccupations, nous risquons fort de connaître les mêmes disconvenues que les disciples. Au chapitre 17 de l'évangile de Luc, on voit les apôtres encore aux prises avec ce problème. Une fois de plus, lorsqu'ils font cette demande à Jésus, augmente notre foi. Et une fois de plus, Jésus leur répond en citant la graine de moutarde comme quantité de foi suffisante pour réaliser des prodiges. Réponse qui montre bien que la question n'est pas là, pas dans la mesure de foi. Et c'est en quelque sorte, c'est comme s'il leur disait, vous n'avez pas besoin de plus de foi, vous avez besoin de plus de moi. C'est quand vous en appelez à moi que vous exprimez votre foi. Alors que vous, quand vous vous appuyez sur votre foi, vous n'en appelez qu'à vous-même. Et donc c'est l'idée même que nous pourrions concevoir, espérer, atteindre une foi suffisante pour déplacer la montagne qui l'a conduit à l'échec. La foi que Jésus attend de nous n'est rien d'autre que de nous attendre à lui. Et donc une foi est bien placée quand elle est placée en Jésus. Elle est bien placée quand nous nous appuyons sur lui. Elle est bien placée quand nous lui faisons confiance. Par contre, elle est déplacée quand elle ne fait pas appel à lui. Elle est déplacée quand nous voulons résoudre les problèmes sans lui, les problèmes qui nous dépassent, comme c'est le cas des disciples de notre texte. Elle est même déplacée quand nous croyons être à la hauteur de ceux qui ne nous dépassent pas et que nous laissons Jésus en dehors de ça. Pour autant, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Alors même qu'il venait d'avertir Pierre de son triple reniement et que cet avertissement faisait suite à une déclaration selon laquelle il se dit prêt à donner sa vie pour lui. Toute expression de foi qui se manifeste autrement qu'en croyant à Jésus n'est que prélude à de grandes désillusions. Je cite encore Christophe Payat. La foi n'est pas seulement une capacité à faire. Elle est la compréhension de qui est Jésus, de ce qu'il peut faire et la confiance qui en découle. Elle est aussi la compréhension de ce qu'est être un disciple. Les disciples, nous dit Christophe, ne sont tout simplement pas faits pour être indépendants de Jésus. Et la promesse de nous accompagner dans l'accomplissement de notre mission ne fait que le confirmer. Sa présence à nos côtés n'est pas un plus, elle est un tout. Tout en dépend. Comme le faisait remarquer Eric dans sa prédication de novembre sur le texte parallèle de Marc, tout ne repose pas sur moi, et heureusement. Les gens n'ont pas besoin qu'on les amène à la foi. Ils ont besoin qu'on les amène à Jésus. Ils n'ont même pas besoin de nous, les disciples de Jésus en tant que tels. Ils ont besoin de nous, c'est pour leur présenter Jésus. C'est pour les introduire auprès de lui. Comme disciples, nous avons à les conduire à Jésus et non à la foi. Nous ne sommes pas des adorateurs de la foi, nous sommes des adorateurs de Jésus. Et inévitablement, pour eux, s'exposer à Jésus les appellera à une réponse de foi. Et c'est quand cette foi manifestera leur croyance et leur dépendance envers Jésus que nous aurons alors sous les yeux la démonstration de la puissance de Dieu à arracher des personnes à leur condition de pécheur, transformer leur vie, à les guérir de leurs blessures et à les voir devenir à leur tour des disciples. Et si c'est la grandeur de foi qui nous préoccupe, alors le regard que nous portons sur la foi ne sera pas très différent de celui que les Juifs portaient sur la loi. Ils prétendaient pouvoir obéir à la loi dans toute sa rigueur et même encore en rajouter parce que c'était pas assez difficile. Comme une certaine idée de la loi nous a mis en face de notre désobéissance, une certaine idée de la foi nous mettra en face de notre incrédulité. Parce que c'est ça qui se passe ici, et en particulier dans Luc 17, où les disciples demandent une augmentation de foi. Les apôtres obtiennent de Jésus une réponse qui met en évidence que le minimum requis leur est inaccessible. Face à une telle réponse, une seule conclusion s'impose, la question ne se pose pas en ces termes. Mais Jésus n'a pas fait que critiquer la foi des gens, et il a même honoré la foi de nombreuses personnes. Hein, on les a tous en mémoire, ta foi t'a sauvé. On rencontre une multitude de mots comme ceci. Nous avons même en Matthieu 8 un passage très proche du nôtre où un officier romain, oui, un romain, qui se sent trop impur pour accueillir Jésus chez lui, vient quand même le trouver pour réclamer la guérison de son serviteur. Et à cette occasion, Jésus déclare qu'il n'a pas trouvé jusqu'à présent pareille foi, même en Israël, même parmi le peuple de Dieu. Sous-entendu, même pas chez les disciples qui l'accompagnent tous les jours. Et quel est le point commun entre toutes ces personnes qui trouvent en Jésus la guérison et le pardon des péchés? Elles ne se posent pas des questions métaphysiques sur la foi, la mesure de foi. Elles manifestent par leurs gestes et leurs paroles une foi déjà agissante. En venant chercher la guérison, en se jetant à ses pieds pour confesser leur inconduite, en cherchant à tout prix à le voir, comme Zachée qui, pour une fois, ne rase pas les murs pour échapper au regard hostile de la foule, elles ont juste compris qu'elles ont besoin de Jésus. Et elles sont déjà en train d'apprendre de lui. Pour appuyer sa définition de la foi, que vous connaissez, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, l'auteur de l'Épître aux Hébreux énumère une longue liste de personnes dont la foi se manifeste par toutes sortes de choix, d'actions, de démonstrations concrètes. J'irais même jusqu'à penser que bon nombre d'entre elles n'ont même pas saisi la portée de ce moment, sur le moment. Quand Pierre se retrouve face à un boiteux qui lui demande l'aumône au tout début de son ministère, on sent bien son manque d'assurance. « Je n'ai ni argent ni or, dit-il, mais tout ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. » Jusqu'à présent, les déclarations tonitruantes de Pierre l'ont plutôt desservi. Mais il prend le boiteux par la main droite et le fait se lever. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le miracle se produit, nous dit le texte, que les chevilles du boiteux s'affermissent, que ses pieds et ses chevilles s'affermissent. Un acte qui laisse libre cours à l'action de Jésus et il manifeste bien évidemment la foi de Pierre. Là n'est pas son but. Lui veut être seulement le témoin de la toute-puissance de Dieu et de son amour pour tous les hommes. Alors, je résumerai par trois points que je retiens de cet article. Le premier point, c'est que nous n'avons pas besoin de plus de foi, mais de plus de Jésus. Toi seul est ma force. On l'a chanté ce matin. Est-ce vrai? Toi seul me restaure. Est-ce vrai? Le deuxième point, c'est que les gens n'ont même pas besoin des disciples, mais de Jésus. Et le troisième point, les disciples ne sont pas faits pour être indépendants de Jésus. Mon secours est en toi. Est-ce vrai ?